Ce que nous faisons pour essayer de projeter cette image, pour nous valider, devient une véritable source de douleur et de confusion. Il doit y avoir une meilleure façon. La véritable arche a été construite avant la fondation du monde. Jésus-Christ est la véritable arche. Où que vous soyez, je témoigne que la porte de l'arche est toujours ouverte. Il vous suffit d'entrer. Ce n'est peut-être que moi, mais ces dernières années, j'ai découvert que je suis devenu totalement dépendant du GPS. Pouvez-vous comprendre? Il y a quelques années, j'étais à Rome et nous nous promenions en utilisant Google Maps pour essayer de trouver le Colisée, et mon visage est enfoui dans le téléphone, et mon fils me dit « Papa, lève les yeux. C'est juste là. » Nous pouvions littéralement voir le Colisée, mais j'étais uniquement concentré sur le GPS. Et ce n'est pas aussi grave que cela pourrait l'être. En 2023, et je n'invente pas cette histoire, deux touristes à Hawaï ont suivi leur GPS, même si celui-ci les a conduits directement dans l'océan. Ils ont descendu une rampe de mise à l'eau dans l'océan parce que le GPS le leur avait demandé. Ils écoutaient la mauvaise voix. C'est exactement ce que suggèrent les chapitres dont nous allons parler aujourd'hui, c'est que lorsque vous suivez les mauvaises voies, vous avez de gros ennuis. Mais il y a aussi beaucoup d'espoir dans ces chapitres, car même avec le déluge à venir, Noé était toujours prévenu. Même au milieu de la tour de Babel, Dieu a préparé la fuite de Jared et de sa famille. Jared, Noé, ils nous apprennent que même lorsque la société s'effondre, nous n'y sommes pas obligés. Aujourd'hui, nous allons explorer deux moments clés des débuts de l'histoire de la Genèse, le déluge et la tour de Babel. Maintenant, si vous vous en souvenez, lors de notre tout premier cours, nous avons parlé d'un aperçu général de l'histoire de l'Ancien Testament. Au cours des derniers cours, nous avons zoomé sur la première partie de l'histoire de la création, du déluge, de la tour de Babel, et nous allons terminer cette section aujourd'hui. Ce faisant, nous verrons comment Jésus-Christ est central dans l'arche, le signe, l'alliance et le nom. Dans Genèse 6, nous rencontrons le prophète Noé. Nous lisons que Noé était un homme juste, irréprochable parmi les gens de son temps, et il marchait fidèlement avec Dieu. Malheureusement, les gens de l'époque de Noé ne marchaient pas fidèlement avec Dieu. En fait, il y avait un péché spécifique qui était si grave qu'il a poussé Dieu à envoyer un déluge pour couvrir la terre. Vous vous souvenez probablement de ce qu'était le péché. Je me souviens d'une soirée cinéma en famille. Peut-être que vous y êtes allé. C'est l'odeur du pop-corn qui flotte dans l'air. Les gens se disputent sur le film que nous allons regarder. Les enfants suggèrent un certain titre. Vous consultez les critiques en ligne et vous dites « Je ne sais pas si c'est un bon film à regarder. » Et les enfants disent « Pourquoi ? » Il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de jurons. C'est juste de la violence. Est-ce que ça arrive parfois chez vous ? Eh bien, dans la Bible, nous lisons que le péché qui a causé le déluge est que la terre était remplie de violence. Alors peut-être ne devrions-nous pas dire que lorsque nous faisons nos choix de divertissement, il s'agit simplement de violence. Les prophètes modernes ont mis en garde contre la consommation de ce type de médias, tout comme la science moderne. Par exemple, comme l'a enseigné un éminent psychologue, les expériences randomisées démontrent de manière concluante que l'exposition à la violence dans les médias augmente immédiatement la probabilité de comportements agressifs chez les enfants et les adultes à court terme, et que l'exposition des enfants à des médias électroniques violents, y compris des jeux violents, conduit à une augmentation à long terme de leur risque de se comporter de manière agressive et violente. Traduction : la violence et les médias violents ne sont pas bons pour vous, et ce n'est pas bon pour le Saint-Esprit. Rappelez-vous ce que Mormon a dit, le peuple se réjouissait continuellement de l'effusion du sang. L'Esprit du Seigneur n'a pas demeuré en nous. Maintenant, pensez à votre propre vie. Il n'est pas nécessaire que ce soit une expérience dramatique. Avez-vous remarqué dans votre propre vie des médias violents provoquant le départ de l'Esprit ? Maintenant, j'en parlais avec des personnes, et quelqu'un m'a dit, « Eh bien, qu'en est-il de la Bible ?» Il y a des choses assez violentes dans la Bible, et c'est vrai. J'ai alors commencé à me demander, existe-t-il des catégories de médias présentant de la violence qui sont acceptables? Il y a des passages intenses de violence dans la Bible, mais la Bible ne glorifie pas la violence et ne met pas trop l'accent sur les détails sanglants. Je n'en vois pas une image terrible. Il existe peut-être certaines catégories qui mettent en avant la violence et qui sont dans le domaine de l'acceptabilité. D'un autre côté, Existe-t-il une catégorie de médias mettant en avant la violence qui n'est jamais acceptable? Pensez, par exemple, au début de Rome. Peut-être que tu es dans le Colisée en train de regarder un être humain. Je vais en tuer un autre. Il est difficile d'imaginer que le Saint-Esprit soit présent lors d'un tel événement. Chacun de nous peut demander l'aide de l'Esprit pour appliquer ce principe clair. Dieu est attristé lorsque ses enfants acceptent la violence. J'aime penser à cette idée d'un pasteur nommé John MacArthur. Il a dit, « Nous ne devrions pas nous laisser divertir par les péchés pour lesquels Christ est mort. » Mais malheureusement, à l'époque de Noé, la violence avait complètement consumé la société, c'est pourquoi Dieu appelle à une remise à zéro divine. Noé se voit confier la tâche de construire une arche, et c'est un événement assez épique. L'arche mesure environ 500 pieds de long, 85 pieds de large et 50 pieds de haut. Cela représente environ un terrain de football et demi de longueur et 4 étages. D'ailleurs, si jamais vous êtes dans le Kentucky, vous devriez absolument aller visiter la réplique vivante de l'arche de Noé. Elle s'appelle l'Ark Encounté, construite dans les mêmes proportions. Et ce qui me fascine dans cette réplique de l'arche, c'est qu'il a fallu 2 ans et 100 millions de dollars pour la créer. Or, Noé n'avait pas ce genre de budget. La Bible n'est pas claire sur le calendrier, mais il semble probable qu'il a fallu à Noé beaucoup plus de 2 ans pour construire l'arche, ce qui est particulièrement impressionnant quand on se souvient qu'il ne pleuvait pas lorsque Noé a construit l'arche. Pensez donc à la foi qu'il faudrait jour après jour, année après année, pour construire une arche dont vous n'êtes même pas sûr à 100% d'avoir besoin. Pouvez-vous imaginer Noé? Ses mains sont couvertes de terre, ses sandales pleines de boue. Il sent le bois de Gophée. Il marche en boitant à cause d'une blessure survenue la semaine précédente alors qu'il transportait du bois. Il essuie la sueur de son visage lorsqu'il entend l'un des villages crier « Eh, Noé, tu construis toujours cette arche ? Tu es fou. » Peut-être qu'il se dit « Suis-je fou ? Ce serait tellement difficile. » C'est pourquoi dans le livre des Hébreux, il est dit « Par la foi, Noé, averti de choses qu'on ne voyait pas encore, dans une sainte crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. » Maintenant, je suis vraiment reconnaissant qu'aujourd'hui on ne nous demande pas de construire des arches. Je ne peux même pas construire une balançoire pour mes enfants, donc cela demanderait énormément de foi. Pensez à ce verset, « Par la foi, Noé, averti de choses qu'on ne voyait pas encore, construisit dans une sainte crainte une arche pour sauver sa famille. » Il ne s'agit pas seulement d'histoire ancienne. Jésus-Christ lui-même a introduit l'arche de Noé à notre époque. Il a dit, parlant de la période précédant la seconde venue, tout comme ce fut du temps de Noé, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Puis le déluge est arrivé et les a tous détruits. En d'autres termes, jusqu'au déluge, tout se passait comme d'habitude. Les gens mangeaient, buvaient, défilaient sur leurs écrans, faisaient ce qu'ils faisaient. Ensuite, beaucoup ont été pris au dépourvu lorsque les inondations sont arrivées. Le Christ dit que la seconde venue se déroulera ainsi. La vie normale va continuer à avancer. Les gens continueront à organiser des réceptions de mariage. Mais un jour, beaucoup de gens seront surpris. D'autres, cependant, auront écouté les prophètes. Ils auront été prévenus de choses pas encore vues. Comme Noé, nous avons reçu ces avertissements. Nous avons des conseils prophétiques sur la façon dont, métaphoriquement parlant, nous pouvons construire une arche pour nous protéger et protéger nos familles, comme Noé l'a fait. Je pense à quelque chose d'aussi simple que l'étude quotidienne des Écritures. Imaginez une mère qui dirige une courte dévotion chaque matin avec sa famille. Cela n'a rien de dramatique. Quelques versets de l'Écriture, une prière, peut-être, si nous avons de la chance, un verset d'un hymne. Ce n'est pas facile. Les enfants se plaignent, les tout-petits pleurent. Cette photo donne l'impression qu'il est toujours heureux. Ce n'est peut-être pas le cas chez vous. Mais voyez-vous que cette femme, grâce à sa diligence, enfonce chaque matin un clou dans l'arche pour sa famille, une étape à la fois. J'ai réalisé qu'en parlant de cela, cela pouvait être frustrant pour certaines personnes qui font de leur mieux, mais ils disent « Je ne construis pas une arche. J'ai juste une barque qui fuit. Je fais de mon mieux. C'est tout ce que j'ai. » Mais voici la bonne nouvelle. Dans un sens, comme Noé, nous faisons de notre mieux pour construire une arche pour aider notre famille. Mais en fin de compte, il ne s'agit pas de l'arche que nous construisons, car la véritable arche a été construite avant la fondation du monde. Jésus-Christ est la véritable arche. Avez-vous déjà remarqué tous les liens scripturaires entre Jésus-Christ et l'arche? Par exemple, on lit qu'il y avait là la porte de l'arche. C'est singulier, pas les portes, juste une porte. Cela nous rappelle bien sûr Jésus-Christ. Celui qui a dit, « Je suis la porte ». Par moi, si quelqu'un entre, il sera sauvé. En fin de compte, soit vous avez franchi la porte et vous êtes dans l'arche, soit vous n'entrez pas par la porte et vous périssez dans le déluge. L'arche est le seul moyen de survie, tout comme Jésus. Maintenant, il y a une autre connexion avec Christ. Celui-ci est vraiment puissant, mais il est facile de le manquer. C'est au verset 14. Le Seigneur dit, « Fais-toi une arche et dresse-la au-dedans et au-dehors avec de la poix. » Cela pourrait être un peu déroutant. Je vais être honnête, quand j'ai lu ce verset pour la première fois, je me disais, je n'avais aucune idée de ce dont cela parlait, et j'ai juste continué à lire. Mais il est parfois utile de consulter une autre version de la Bible. J'ai eu une traduction différente, et cela a rendu les choses plus claires. Fais-toi une arche et couvre-la intérieurement et extérieurement de poids. C'était un peu plus facile à comprendre. Noé était censé prendre ce terrain, dont j'ai déduit qu'il s'agissait d'une sorte de goudron, et en recouvrir complètement l'arche pour qu'elle soit imperméable. J'étais à peu près satisfait de cela, mais ensuite j'ai pensé, je me demande si j'ai regardé les mots hébreux derrière l'anglais, s'il pourrait y avoir plus de sens à découvrir. Mais il y a un problème. Je ne parle pas l'hébreu. Je ne lis pas l'hébreu. Je ne sais même pas lire les cursives. Mais heureusement, il existe des outils en ligne qui peuvent nous aider. Si vous ne la connaissez pas déjà, je vous encourage vivement à consulter la Bible des lettres bleues. Il vous montre ce que signifiait le mot traduit en anglais dans sa langue d'origine. Vous pouvez facilement y accéder gratuitement, soit avec l'application Blue Letter Bible, soit sur blueletterbible.org. J'ai recherché ce verset délicat sur la hauteur, et la Bible des lettres bleues ne m'a pas laissé tomber. Je vais vous expliquer comment l'utiliser, et je vous encourage vraiment à suivre, à essayer de comprendre comment l'utiliser dans votre propre étude. Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous parcourons la Bible aux lettres bleues. Nous arrivons à Genèse 6, 14. Ensuite, si vous cliquez dessus, vous pouvez cliquer sur Concordance interlinéaire. Ensuite, lorsque vous commencez à faire défiler vers le bas, vous lisez le verset dans la colonne anglaise et vous pouvez trouver la phrase clé qui vous intéresse. Dans ce cas, « Nshalt pitch », et vous cliquez dessus. Je vois que cette expression vient du mot hébreu « kafar », qui signifie « couvrir, purger, faire expiation ». Genèse 6 est la seule fois où ce mot grec est traduit par auteur. Mais si vous faites défiler l'écran vers le bas, vous pourrez voir toutes ces autres fois où c'est trans. Le même mot hébreu est traduit par « pour faire expiation ». Maintenant, nous pourrions faire la même chose. Rappelez-vous que le mot « auteur » est apparu deux fois dans Genèse 6, 14. Nous pourrions revenir en arrière, revenir au même verset, faire défiler jusqu'à cette dernière phrase avec « auteur ». Je clique dessus ici, je vois que c'est un mot apparenté, « coffé », et une définition donnée est prise d'une vie, « rançon, pot de vin ». Dans le contexte de Genèse 6, il fait référence à un type de goudron, mais dans le contexte plus large de la Bible, il est fréquemment traduit par « rançon ». Cela m'a amené à une déclaration de Paul qui dit, « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, l'homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Prenons maintenant ces définitions hébraïques. Nous les rebrancherons dans le verset original, « Fais de toi une arche et kafar à l'intérieur et à l'extérieur avec coffé. » N'oubliez pas que kafar est le plus souvent traduit par expiation, et coffé est le plus souvent traduit par rançon. Si nous prenons ces paroles et les remettons au verset 14, fais-toi une arche et fais l'expiation intérieurement et extérieurement avec la rançon. L'arche est entièrement recouverte de ce terrain. À l'intérieur et à l'extérieur de nous-mêmes, nous devons être complètement recouverts de l'expiation du Christ. Nous sommes en sécurité dans l'arche, non pas parce que nous sommes forts, mais parce que Christ l'est, et il est devenu notre rançon. Lorsque nous sommes couverts par sa véritable arche, nous sommes alors transportés en toute sécurité à travers les tempêtes. Alors n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de construire l'arche. Jésus est l'arche. Il vous suffit d'entrer. Maintenant, je veux que nous fassions une pause et réfléchissions à cela. Christ est la véritable arche. Alors, en termes pratiques, qu'est-ce que cela pourrait signifier dans nos vies d'entrer plutôt que d'essayer de construire son propre bateau? Mon esprit s'est immédiatement tourné vers le vêtement du saint sacerdoce. Cela me couvre et me protège de plusieurs manières. Puis à l'intérieur, cela me rappelle que Christ est en moi. Et hier soir, pendant que je faisais mes prières, j'ai remercié notre Père Céleste de faire des progrès et d'avoir le temple en moi. Merci. J'aime que cette arche qui parle fasse référence à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. C'est comme tu pourrais le penser que l'emplacement à l'extérieur était peut-être adéquat, mais le Seigneur savait mieux. Cela ne devait pas seulement se faire à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Il fallait que ce soit aux deux endroits. J'adore donc son commentaire selon lequel on peut aller au temple, regarder l'extérieur et admirer sa beauté, mais il faut entrer. Mais même cela ne suffit pas. Vous devez le laisser pénétrer en vous. Merci. Nous avons donc vu qu'il n'y a qu'une seule porte, que le Sauveur nous couvre de poids à l'intérieur et à l'extérieur, et qu'il existe d'autres liens entre l'arche et le Christ. Par exemple, avez-vous déjà réfléchi à la façon dont la porte de l'arche, la porte unique, s'est fermée? Noah a-t-il un petit verrou? Non, nous lisons en fait que le Seigneur lui-même l'a enfermé à l'intérieur. Alors pensez à cela, Dieu scellant Noé dans l'arche. Il y a aussi d'autres liens. À notre connaissance, l'arche n'a pas de gouvernail. Il n'y a pas de volant. Je vous ai déjà dit que j'adorais le GPS. J'aime vraiment quand Dieu donne des instructions claires. Tournez à droite, tournez à gauche, continuez tout droit. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé pour Noah. Il devait faire entièrement confiance au Seigneur. Parfois, nous entendons l'expression « Jésus prend le volant », et j'aime cette phrase, mais nous pouvons aussi nous rappeler que Jésus est la roue. C'était lui qui dirigeait l'arche. Maintenant, pensez à une autre parabole. Lorsque l'arche s'est immobilisée, Noé est sorti sur une terre purifiée. Cela souligne la purification que nous recevons lors du baptême. Pierre écrit, « Dans l'arche, seules quelques personnes, 8 en tout, ont été sauvées grâce à l'eau. Cette eau symbolise le baptême qui maintenant vous sauve aussi. Non pas l'élimination des saletés du corps, mais le gage d'une bonne conscience envers Dieu. Cela vous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Tout comme la terre reçoit un nouveau départ avec le déluge, nous aussi avec le baptême. Paul a écrit, « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ avons été baptisés dans sa mort ? Nous avons donc été enterrés avec lui par le baptême dans la mort, afin que, tout comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous puissions nous aussi vivre une vie nouvelle. » Ainsi, le déluge indique ce moment où nous devenons de nouvelles créations en Christ. Et cela nous amène à l'alliance et au signe que Dieu conclut avec le déluge. Après le déluge, Dieu a conclu une alliance avec Noé selon laquelle il n'inondera plus jamais la terre. Pour enfoncer le clou, Dieu met un arc-en-ciel dans le ciel. Vous êtes probablement comme moi. Vous aimez chercher des arcs-en-ciel. Je ne sais pas quand vous voyez un arc-en-ciel, si vous pensez à un pot d'or, si vous cherchez des lutins, ou peut-être sortez simplement un appareil photo pour prendre une photo. Mais j'espère que la prochaine fois que vous ou moi verrons un arc-en-ciel, nous nous souviendrons de ces paroles du Seigneur. Il dit, « Je place mon arc dans la nuée, et ce sera un signe d'alliance entre moi et la terre. » Quand j'ai déjà lu ce verset, j'ai toujours supposé que par arc, c'était juste l'abréviation de arc-en-ciel. Cela signifie définitivement arc-en-ciel dans le contexte de ce verset. Mais si nous revenons à notre ami, la Bible aux lettres bleues, nous verrions que le mot hébreu traduit ici par arc est souvent traduit par arc dans le sens d'une arme, comme un arc et des flèches. Maintenant, réfléchissez-y. Si vous considérez l'arc-en-ciel comme un arc littéral, notez qu'il n'est pas pointé vers nous. Il est pointé loin de nous. Peut-être que l'arc-en-ciel lui-même symbolise le fait que Christ a pris notre punition à notre place. La flèche n'est pas dirigée vers nous, elle est dirigée vers lui. Comme Isaïe l'a dit, il a été transpercé à cause de nos transgressions. Or, dans la version King James, cet arc-en-ciel est appelé un jeton. D'autres traductions y font référence comme un signe. Ces mots jeton et signe ont une signification particulière pour nous, saints des derniers jours, car ils sont liés aux cérémonies du temple. comme l'a enseigné le prophète Brigham Young, votre dotation est de recevoir toutes ces ordonnances dans la maison du Seigneur pour vous permettre de retourner en présence du Père, de dépasser les anges qui servent de sentinelles, d'être capable de leur donner les mots-clés, les signes et les signes relatifs à la Sainte Prêtrise, et d'obtenir votre exaltation éternelle. Alors que nous essayons de comprendre un verset comme celui-ci, je pense qu'un autre outil d'étude utile est le dictionnaire 1828, que vous pouvez facilement rechercher sur Google. Vous pouvez chercher sur Google un jeton de dictionnaire 1828, car beaucoup d'entre nous pourraient se demander ce que signifie le mot jeton. Quand j'étais enfant, cela signifiait ce que l'on mettait dans un Chuck Cheese, n'est-ce pas? Alors, dans le contexte de la citation de Brigham Young, qu'est-ce qu'un jeton? Donc si on va dans le dictionnaire de 1828, on voit que c'est un signe, quelque chose destiné à représenter ou en désigner autre chose ou un événement. Il est intéressant que le dictionnaire utilise à cette époque cet épisode du jeton d'un arc-en-ciel pour définir le mot. Et d'ailleurs, certains d'entre vous diront peut-être, c'est tellement fastidieux, frère Hilton. Pourquoi parlez-vous de la Bible aux lettres bleues et du dictionnaire de 1828? C'est parce que j'espère que ce sont vraiment des outils que vous utilisez dans votre propre étude personnelle. Je ne veux pas que ce cours se résume à, oh, permettez-moi de partager quelques idées intéressantes avec vous. J'espère que lorsque vous étudiez, vous trouvez un verset, et vous vous dites que ce verset fait nom et que vous utilisez ces outils pour déterrer et déballer des choses. En commençant à lire cette définition et à réfléchir à ce que signifiait un jeton, je me suis souvenu du capitaine en chef Moroni et du titre de liberté. Vous souvenez-vous du moment où le peuple a couru, déchirant ses vêtements en signe ou en signe d'alliance qu'il n'abandonnerait pas l'Éternel, son Dieu? Dans ce cas, les vêtements déchirés étaient une représentation symbolique de l'alliance qu'il concluait. Tout comme l'arc-en-ciel est un signe de l'alliance que Dieu a conclue avec nous. Les jetons sont des rappels de nos promesses. Je pense qu'il est intéressant que dans le cas de l'arc-en-ciel, ce soit un rappel non seulement pour nous, mais aussi pour Dieu. Il dit, « Chaque fois que l'arc-en-ciel apparaîtra dans les nuages, je le verrai et je me souviendrai de l'alliance éternelle entre moi et toi. » En d'autres termes, un arc-en-ciel est la façon dont Dieu dit, « Je me souviens de toi. » Bien sûr, Dieu n'a pas besoin d'un arc-en-ciel pour le lui rappeler, mais il est très utile pour nous d'avoir des rappels des alliances que nous avons contractées. Le modèle de Dieu a toujours inclus des symboles et des signes pour nous aider à nous souvenir de nos alliances. Maintenant, notre dernier sujet aujourd'hui consiste à voir à quel point Jésus-Christ est central dans le nom. Jusqu'à présent, nous avons vu une arche, une alliance et un signe, qui nous dirigent tous vers Christ. Mais avant de parler du Christ et de son nom, je veux faire trois quêtes secondaires, juste de petites aventures en cours de route. Premièrement, si vous prenez du recul et regardez le récit du déluge dans son ensemble, nous voyons que non seulement il s'agit d'un récit miraculeux, mais aussi d'un chef-d'œuvre littéraire. C'est un chiasme. Beaucoup d'entre vous ont probablement entendu parler du chiasme. C'est une forme de poésie hébraïque. Cela ressemble à ceci. Vous avez A, B, C, D, puis il y a un point principal central, puis il recule dans l'ordre inverse, D, C, B, A. Ce récit du déluge est structuré comme un chiasme. C'est beau. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une forme de poésie hébraïque. Cela commence et se termine avec le nom de Noé et de ses fils. Ensuite, il y a une alliance que Dieu conclut avec Noé, parallèlement à une alliance que Dieu conclut avec toute chair. Ensuite, les eaux de la terre montent et descendent de manière symétrique. La partie la plus importante, comme vous le savez avec le chiasme, est ce qui se trouve au milieu. Le message central est que Dieu se souvient de Noé. C'est toute l'histoire. Maintenant, pour les saints des derniers jours, nous nous intéressons particulièrement au chiasme parce qu'il y en a dans le livre de Norman. Vous pourriez vous demander comment est-il possible que Joseph Smith, qui ne connaît rien au chiasme, ait pu insérer cette forme de poésie hébraïque dans le livre de Mormon? La réponse simple est qu'il n'aurait pas pu. Mais si vous regardez un chapitre comme Alma 36, la structure chiasmique ici est si complexe. Je suis presque sûr que si Joseph Smith l'avait mis dans le livre de Mormon, il en aurait parlé aux gens. En 1836, il y aurait eu un sermon, et cela s'est produit. Joseph Smith a dit, « Avez-vous déjà remarqué cet impressionnant chiasme dans Alma 36 ? C'est incroyable. » Honnêtement, je ne pense pas que Joseph Smith était au courant du chiasme d'Alma 36. Il n'a été découvert que plus d'un siècle après sa mort. Maintenant, ne vous méprenez pas. Je ne baserai pas mon témoignage du Livre de Mormon sur la présence du chiasme, mais c'est un de ces petits éléments de preuve qui témoignent que Joseph Smith n'a pas inventé cela. Il ne pouvait pas connaître la poésie hébraïque, mais Alma le pouvait. Maintenant, je sais que vous pensez peut-être, waouh, frère Hilton, c'est génial. J'aimerais pouvoir en lire beaucoup plus sur le chiasme. Vœux exaucés. J'ai créé un lien vers cet article et d'autres sur le site web du cours. Mais la chose la plus importante à retenir est que la partie centrale du chiasme dans Alma 36 est que le pouvoir expiatoire de Jésus-Christ nous couvre. Le centre du chiasme du déluge est que Dieu se souvient de vous. Je témoigne que, tout comme Dieu s'est souvenu de Noé, il se souvient de vous. D'accord, c'est donc une quête secondaire. La deuxième quête secondaire est un peu plus difficile. C'est cette histoire folle dans Genèse 9. Quand vous l'avez lue, vous avez probablement pensé, qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il ici? Noah est ivre et il est nu. Alors son fils Ham le découvre dans la tente, le dit à ses frères, et ses frères marchent à reculons pour ne pas voir leur père nu, couvrent leur père. Lorsque Noé se réveille et réalise ce qui s'est passé, il est vraiment en colère et il ne maudit pas Cham, mais le fils de Cham, Canaan. Il dit, « Maudit soit Canaan, il sera le serviteur des serviteurs de ses frères. » Maintenant, nous pourrions lire cette histoire et nous demander, « Que se passe-t-il ? » C'est une excellente question et je ne connais pas la réponse. Nous devons nous rappeler que cette histoire remonte à des milliers d'années. Il y a évidemment beaucoup de détails qui nous manquent. Pendant des siècles, les commentateurs de la Bible se sont débattus avec cette histoire. Ils ont offert différentes possibilités. Mais historiquement parlant, il y a une interprétation qui est vraiment troublante, c'est qu'historiquement, ce passage a été utilisé pour justifier l'esclavage des Noirs. J'aime ce que Martin Luther King a dit, utiliser la Bible pour plaider en faveur de l'esclavage et de la discrimination raciale est un blasphème. Cela va à l'encontre de tout ce que représente la religion chrétienne. Il a tout à fait raison. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé dans Genèse 9. Les commentateurs ont avancé des dizaines de théories, mais ils n'en sont pas sûrs. Ce dont je suis sûr, c'est que ces paroles du président Russell M. Nelson sont vraies. Il a déclaré, « Nous abhorrons le fait que certains refusent aux autres le respect et les libertés les plus fondamentales en raison de la couleur de leur peau. Notre Créateur à tous appelle chacun de nous à abandonner ses attitudes de préjugés à l'égard de tout groupe d'enfants de Dieu. Tous ceux d'entre nous qui ont des préjugés envers une autre race doivent se repentir. Maintenant, je sais que nous devons encore trouver le nom dans Genèse 11, mais nous avons encore une quête secondaire, car entre Genèse 9 et Genèse 11 se trouve Genèse 10. C'était une quête facile. Genèse 10 est l'un de ces chapitres où vous n'aurez peut-être même pas besoin de faire semblant de bâiller, un véritable bâillement pourrait survenir. C'est ce qu'on appelle la table des nations. C'est l'un de ces intels qui engendre un tel, et la moitié des noms semblent appartenir à un film Marvel. Vous pourriez simplement lire la liste et penser, pourquoi est-ce dans la Bible? Mais caché dans ce tableau des nations se cache quelque chose de vraiment cool. Si l'on compte le nombre de nations répertoriées dans Genèse 10, il y en a 70. C'est un nombre symbolique qui représente l'ensemble du monde connu. Pensez à Jésus-Christ dans Luc 10. Il envoie 70 disciples, deux par deux, dans chaque ville. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un écho de Genèse 10, représentant les 70 nations alors que le Christ envoie son message dans le monde entier. Bien sûr, pensez à aujourd'hui. Nous avons des collèges modernes des 70. Les 70 d'aujourd'hui, comme les 70 d'autrefois, nous désignent le rassemblement symbolique des 70 nations. Le message est vraiment clair. L'histoire de Dieu a toujours été mondiale. Il prend le message et il nous demande de l'aider à transmettre le message au monde entier. Bon, passons à l'histoire de la tour de Babel, où nous verrons la centralité du Christ dans le nom. Vous connaissez le scénario général. Le peuple dit, « Bâtissons-nous une ville avec une tour qui s'élève jusqu'aux cieux, afin que nous puissions nous faire un nom. » Notez qu'ils ne construisaient pas un temple pour adorer Dieu. Ils construisaient une plateforme d'autopromotion. Ils voulaient se faire un nom. C'est la plus vieille soif du monde. Remarquez-moi, validez-moi, souvenez-vous de moi. J'adore cette idée d'un pasteur nommé Timothy Keller. Il a dit, que signifie se faire un nom? Cela signifie que je veux savoir que j'ai de la valeur. Je veux savoir que je suis quelqu'un de spécial. Nous devons trouver des gens que nous impressionnons. Nous devons faire nos preuves. Maintenant, pour être clair, il est vraiment important d'utiliser nos talents pour construire le royaume. Dieu veut que nous soyons compétents, mais pas dans le but de nous faire un nom. Je ne sais pas si l'un d'entre vous se souvient du film Rocky. Cela a environ 50 ans. Dans le film Rocky, Rocky ne veut vraiment pas être un clochard. C'est tout son truc. Il dit, « Je ne veux pas être un clochard ». Il est sur le point de se lancer dans le combat de sa vie à travers une étrange série de coïncidences. Il va boxer le champion du monde des poids lourds. Alors que Rocky parle à Adrian la veille, il dit, « Je ne veux pas gagner. Je ne veux juste pas être éliminé. Je veux tenir la distance parce que personne ne l'a jamais fait auparavant. » Rocky dit, « Si cette cloche sonne et que je suis toujours debout, je saurai pour la première fois de ma vie que je n'étais pas qu'un simple clochard. Du quartier. » Maintenant, dans le film, c'est une scène magnifique, mais dans la vraie vie, c'est tragique. Pouvez-vous voir comment Rocky, tous ses espoirs et ses rêves, qu'il est enveloppé dans une forme externe de validation? Je doute que l'un d'entre nous entre bientôt sur le ring de boxe, mais disons-nous déjà quelque chose comme, si j'obtiens ce travail, ma vie s'articulera. Si j'ai une certaine apparence, je me sentirai plus en confiance. Si j'ai suffisamment de followers, je me sentirai enfin vu. Si mes enfants font de bons choix, je saurai que ma vie a un sens. J'aurai enfin un nom. La vérité est que nous n'avons jamais été censés nous faire un nom. Nous sommes censés recevoir le nom de Jésus-Christ. Vous souvenez-vous de ce que le roi Benjamin a enseigné? À cause de l'alliance que vous avez conclue, vous serez appelés enfants du Christ. C'est pourquoi je voudrais que vous preniez sur vous le nom du Christ. Nous n'avons pas besoin de nous faire un nom parce que Christ nous a déjà donné son nom. Voyez-vous à quel point c'est libérateur? Je n'ai pas besoin de me comparer à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de regarder la beauté de votre cuisine et de la comparer à celle de quelqu'un d'autre. Peu importe le nombre de personnes qui ont commenté votre dernier message. Je n'ai pas besoin de me faire un nom. Je prends simplement son nom sur moi. Alors pensez à votre vie. Dans votre vie, comment le fait de prendre le nom du Christ vous a-t-il aidé à vous libérer du besoin de faire vos preuves? Lorsque je prends le nom du Christ dans ma vie, cela me donne un cadre sur la manière d'agir, de croire et de faire. Merci. Nous avons donc déménagé en Utah il y a environ 3 ans. Nous étions censés rester ici pendant 6 mois, et nous avons déménagé, vendu notre maison en Virginie, emménagé ici et allions être ici dans le sous-sol de ma belle-mère. Ainsi, tous nos biens terrestres sont entreposés. Mais nous sommes venus ici parce que nos enfants étaient ici à l'école et nous voulions les soutenir. Nous avons un plus jeune qui ne connaîtrait pas ses frères et sœurs aînés si nous n'étions pas là. Et les choses ne se sont pas déroulées comme nous l'avions prévu, mais nous constatons que nous sommes super heureux. Nous pouvons aller au temple plus fréquemment. Nous sommes impliqués dans notre paroisse. Nous constatons qu'en prenant soin de nous et en nous concentrant vraiment sur Christ, malgré ce que le monde pense que nous devrions faire de nos vies en ce moment, nous constatons que nous éprouvons beaucoup de joie à cause des bonnes choses, à cause de Christ. Comment se fait-il que vous puissiez faire cela alors que vous pouvez regarder votre situation extérieure et dire « Waouh, je ne me fais pas un nom ». Les choses pourraient aller bien mieux. Comment parvenez-vous à ressentir cette joie? Nous nous sommes davantage concentrés sur le temple, sur une meilleure étude des Écritures en famille avec notre jeune, sur le fait d'en parler avec d'autres personnes, sur le partage de l'Évangile, je pense, sur le fait d'avoir plus de gratitude et d'être capable de reconnaître les bénédictions éternelles, de penser céleste et de nous concentrer davantage sur ces bénédictions éternelles que sur les bénédictions du monde en ce moment. Je pense que cela nous a simplement aidé à réaliser que c'est ce qui compte vraiment, que ces choses du monde ne sont tout simplement pas si importantes. Merci. La chose qui m'est venue à l'esprit était le joug, et le joug est conçu pour amener 2 animaux à travailler ensemble, et le Christ nous invite à être sous le joug avec lui. Donc, si vous êtes sous le joug de lui, vous n'avez pas besoin d'un autre nom que celui-là. C'est le partenaire tout-puissant. Amen. Merci. Cela me fait penser aux Écritures du livre de Mormon qui parle de la perfection en Christ et de la manière dont il nous est demandé d'être rendus parfaits. Le but est la perfection, mais cela m'aide à comprendre un peu mieux ce passage, à mesure que je prends son nom sur moi, puis il se réconcilie et me permet de devenir plus entier malgré mes faiblesses ou mes insécurités. Et je n'ai pas à m'inquiéter autant de savoir si mes points forts me mèneront là où je dois aller, car cela n'a vraiment pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je le choisisse et que je lui permette de me fortifier afin que je puisse avancer d'une manière qui lui permettra de faire une différence dans la vie des autres, pas seulement dans la mienne. D'accord, donc j'adore ça. Et nous sommes ici dans cette classe, ça a l'air parfait. Genre, oh, super. Je vais juste faire ça. Mais comment faire? Dans la vraie vie, quand il y a une vraie inquiétude, une tension, comment pouvez-vous vous en libérer en vous connectant au Sauveur et à son nom? Je ne peux donc pas penser à quelque chose de personnel, mais en fait, j'ai une grand-mère qui a 95 ans ce mois-ci. Au cours de sa vie, elle a été appelée à plusieurs reprises à occuper de grands postes de direction, notamment et dans la société de secours, tant au niveau de la paroisse que du pieu. Et je me souviens qu'elle m'a raconté qu'elle ne pensait tout simplement pas que quelqu'un comme elle pouvait faire quelque chose de merveilleux ou faire une telle différence, et pourtant, elle était appelée encore et encore pour servir. Et en s'appuyant sur Jésus-Christ et en lui permettant de la fortifier, elle a pu faire une si grande différence et elle a établi des liens avec des gens avec lesquels elle ne pensait pas pouvoir établir des liens. Mais je pense que cela lui a donné confiance, ce qui est similaire à ce que le président Nelson nous a demandé de faire, trouver la confiance devant le Seigneur. Et je pense qu'en prenant sur elle le nom de Jésus-Christ dans ses appels, elle a pu avoir la confiance nécessaire pour aller partout et servir les autres et les aider à trouver la confiance et à trouver le Sauveur et leur permettre de prendre sur eux le nom de Jésus-Christ et ainsi aller de l'avant et trouver la confiance et créer cet effet d'entraînement. Je l'aime. Merci. J'apprécie toutes ces expériences et pensées sincères. Merci. Si nous revenons à la tour de Babel, les gens veulent se faire un nom, que se passe-t-il ensuite ? Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les gens construisaient. Le Seigneur a dit, si, comme un seul peuple parlant la même langue, ils commençaient à faire cela, alors rien de ce qu'ils avaient prévu de faire ne leur serait impossible. Allons, descendons et confondons leur langage pour qu'ils ne se comprennent pas. Maintenant, ne le prenez pas mal. Ce n'est pas comme si Dieu était intimidé par les prouesses architecturales des gens. Il n'a pas peur qu'ils grimpent au paradis. Il est juste triste qu'ils soient si fiers. Alors ils confondent leur langue, et la tour reste inachevée. Pensez à l'ironie. Ce qu'ils ont construit pour se faire un nom est devenu un symbole de confusion. Et n'en est-il pas ainsi dans nos propres vies? Parfois, le simple fait que nous essayons de projeter cette image pour nous valider devient une véritable source de douleur et de confusion. Il doit y avoir une meilleure solution, et elle existe. Timothy Keller souligne qu'il y a un contraste entre la tour de Babel dans Genèse 11 et le jour de la Pentecôte dans Acte 2. Comme vous vous en souvenez probablement, 50 jours après la crucifixion du Christ, des Juifs du monde entier sont venus à Jérusalem pour célébrer la fête juive de la Pentecôte. Les disciples étaient tous rassemblés dans une maison lorsqu'un vent puissant entra, et tous furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues. Pouvez-vous voir la connexion? Des gens du monde entier, parlant de nombreuses langues différentes, sont désormais tous capables de comprendre les disciples qui témoignent de Jésus-Christ. Voyez-vous le contraste? Les habitants de Babel étaient dispersés, mais à la Pentecôte, ils étaient rassemblés. À Babel, les gens sont passés d'une langue à plusieurs, mais à la Pentecôte, ils sont passés de plusieurs à une. La tour de Babel a été conçue pour que les hommes se construisent un nom, où à la Pentecôte, le nom de Jésus-Christ était loué. Ainsi Jésus-Christ renverse la tour de Babel. Les habitants de Babel ont essayé de gravir le chemin du ciel, mais Jésus est descendu pour nous amener le ciel. À Babel, ils ont essayé de se faire un nom. Grâce à l'expiation du Christ, il nous a donné le sien. Alors, mes amis, au lieu de demander « comment puis-je me faire un nom ?» nous pouvons nous demander « comment puis-je me reposer dans le nom qu'il m'a déjà donné ?» C'est une question qui mérite une réflexion approfondie. Maintenant que nous avons passé notre temps ensemble aujourd'hui, nous allons sortir. Quel que soit le temps qu'il fait dehors, nous savons que des nuages d'orage spirituel se rassemblent et que nous sommes tous dans des endroits différents. Peut-être que certains d'entre nous sont en sécurité dans l'arche. Peut-être que certains d'entre nous se tiennent dehors et qu'il commence à pleuvoir. Peut-être que certains d'entre nous se dirigent directement vers l'océan. Espérons que non. Mais où que vous soyez, je témoigne que la porte de l'arche est toujours ouverte. Il y a des jetons, des alliances et des noms à recevoir. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de construire l'arche. Il vous suffit d'y entrer.